En fait, ça ne commence pas très bien. Le premier numéro de Pilote, si on le reprend en main aujourd'hui, est d'une qualité très relative. Au départ, c'est une revue qui est vraiment dans cette tradition belge. Tintin, Spirou, c'est un peu un mix entre les deux, peut-être un peu plus Spirou que Tintin d'ailleurs, où on a des choses finalement assez classiques, qui est en plus une revue qui est sponsorisée au départ, qui est parrainée par Radio Luxembourg. Puis au bout d'un an, ça va se casser la gueule. Enfin, le premier numéro marche très bien et puis ça périclite très vite. Cela dit, dans le premier numéro, il y a évidemment quelque chose d'important qui est Astérix, une série qui à bien des égards est très classique puisqu'elle est complètement dans la lignée des créations belges qui les avaient précédées, mais qui possède suffisamment de deuxième degré de lecture, enfin tout ce qui est calembour, référence à toute une série de choses qui fait que là ça va toucher clairement un public adulte. C'est-à-dire que l'adulte en lisant Pilote sent qu'il y a des choses qui ont été faites pour lui que le lecteur de 9-10 ans ne va pas nécessairement saisir. Voilà. Au bout d'un an, donc Georges Dargaud rachète le titre et va confier le poste de rédacteur en chef à Goscinny et à Jean-Michel Charlier, qui sont un petit peu les deux scénaristes emblématiques de la revue, et qui sont extrêmement différents. Hein, donc à la fois Charlier, qui est vraiment dans ce qu'on appelle communément, j'aime pas trop le terme, mais de la bande dessinée réaliste, une bande dessinée de genre, une bande dessinée qui est l'héritière du feuilleton populaire et du cinéma de grande diffusion, avec des récits, on va dire, assez carrés, parfois même avec des accents un petit peu réactionnaires. Et puis Goscinny, qui est lui plus dans la veine de Walt Disney, qui est un ami de Franquin, qui a bien connu Jigé, etc., donc qui réinjecte dans ses scénarios toute cette fantaisie, tout en y apportant ce second degré de lecture qui va plaire au lecteur adulte. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, Pilote, petit à petit, va se muer en une revue qui va de plus en plus toucher un lectorat adulte. À tel point qu'à un moment donné, Astérix va disparaître, des choses comme Tanguy la Verdure, Lucky Luke ou Achille Talon ne seront plus là. L'équipe considère qu'elles n'ont plus leur place là-bas dans une revue qui désormais s'adresse à un lectorat qui est plus proprement adulte. Mais je pense que la période la plus excitante, justement, c'est celle où on retrouve dans Pilote, à côté d'Astérix, à côté de Lucky Luke, à côté de Bob Moran, on va retrouver Druillet, on va retrouver Sergent la Terreur de Touille et Friedman, par exemple. On va retrouver Claire Bretécher, Rezer qui apparaît là, Forrest avec Hypocrite, je pense au Merveilleux Voyage d'Antonin de Calmon Cohen qui est une espèce d'univers un petit peu à la Folon. Et Goscinny a cette intelligence d'accepter des tas de choses, y compris parfois des créateurs où il ne voit pas. Je ne suis pas sûr qu'il était un grand fan de Druillet, par exemple. Régis Franck, quand il arrive, il dit c'est pas mal, mais je vois pas où est le gag, donc on peut se dire est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension. Mais en tout cas, il a cette espèce de lucidité qui fait qu'il accepte comme ça toute une série de créations qui apparaissent en tout cas complètement hors normes par rapport au canon de l'époque, quoi. Et la bande dessinée doucement en train de changer aussi. On relate une réunion comme ça assez musclée où Charlier n'arrive pas parce qu'il, je sais pas, il n'a pas trouvé son bus. C'est le bordel dans Paris avec 68 et où Goscinny est un peu pris à partie comme s'il était le gros patron par rapport à ces genoux que sont Druillet, Mandrika ou Giraud, par exemple, qui veulent dire, y en a un peu marre, on veut une revue qui soit vraiment bien inscrite dans les réalités de l'époque, etc., avec parfois des excès rhétoriques qui sont un petit peu liés à l'époque aussi. Goscinny va très mal vivre ce qu'il a ressenti comme une espèce de tribunal, en tout cas, mais toujours est-il que le journal souffre vers l'extérieur. J'ai souvenir comme ça de pages d'espèces de fausses actualités régionales. Mais quand on voit Groland aujourd'hui, c'est déjà cet esprit-là, quoi. On en rajoute une couche, il y a des choses sans doute qu'on fait à Groland qu'on n'aurait pas pu montrer dans Pilote, mais cet esprit est clairement sage. C'est pas pour rien que c'est Alain Chabat qui a fait une adaptation d'Astérix, enfin tout l'esprit de Canal+ dans les années 80 est clairement présent là-bas, quoi. Il y a une connexion qui, moi, me paraît vraiment évidente. Et donc on est dans cette espèce de ripopée, comme ça, de de mélange incongru de choses complètement fulgurantes, d'expériences graphiques et narratives qui parfois se révèlent tout à fait étonnantes, parfois ne mènent à rien, mais peu importe, voilà. Et donc il y a cette période d'équilibre comme ça qui me paraît la plus intéressante. Goscinny avait amené une espèce d'espace de liberté absolument formidable pour ses auteurs, parce que quand Maurice débarque à Pilote ou quand Giget arrive à Pilote, bah, ils ont des conditions de travail et un climat de travail qui est très différent du paternalisme qu'on pouvait trouver chez Dupuis, par exemple, hein, même si, à mon avis, ils l'ont un peu regretté à un moment donné, mais enfin, peu importe. Mais en même temps, pour Gottlieb, pour Bretéché, pour Mandrika, il y a un moment donné aussi où on a envie d'aller plus loin. Bon, arrive fin des années 60, arrivent les créations d'underground américaines, ces gens découvrent Robert Crumb, Shelton et ces gens-là, ils ont envie de parler, d'y aller franchement dans la critique sociale, de mettre une bonne dose de vulgarité dans leur création, enfin une espèce de vulgarité jouissive, de parler de sexualité, de scatologie, etc. Là sont les limites de Goscinny, et donc c'est là que se crée notamment par exemple l'écho des savanes, donc avec Gottlieb, Mandrika et Bretéché, qui est une première dissidence. Enfin, il y a une nouvelle culture aussi qui émerge avec mai 68, etc., notamment d'intérêt pour la science-fiction, par exemple, où on commence à lire Philippe Dick ou Kurt Vonnegut, par exemple, des choses comme ça. Et voilà, et puis il y a Métal Hurlant qui va apparaître dans la foulée avec Dionnet, Druyer et Meubus, donc Giraud, qui sont aussi des anciens de Pilote. Pilote a vraiment sa pertinence dans ce moment d'équilibre. C'est une espèce vraiment d'aiguillage, je trouve, entre le classicisme franco-belge, en disons Tintin Spirou, et puis cette bande dessinée qui va s'épanouir dans les années 70 et qui est vraiment l'incarnation de ce qu'on appelle alors la contre-culture, donc toute cette culture contestataire et de remise en cause des valeurs qui font de la société, je veux dire, gaulliste, dont ils sortent à peine, quoi.